Dominique Chauffard.
Notre sondage SSR le révèle, les Suisses entretiennent des relations ambivalentes avec l'Union européenne. Une majorité se dit méfiante envers l'institution, mais elle reste attachée aux accords bilatéraux à plus de 80%. Ce soutien est davantage porté par les universitaires. Il n'est partagé que par 42% des personnes avec un faible degré de formation. Une différence logique selon Martina Mousson, la chef de GFS Bern. C'est l'institut qui a mené ce sondage.
Plus la formation elle augmente, plus on a tendance à voir les avantages des accords bilatéraux. Ça a bien sûr à voir avec la mobilité qui est plus facile pour les gens qui ont une éducation plus élevée, c'est-à-dire d'aller travailler et vivre autre part dans l'Europe. C'est plutôt quelque chose que des gens qui ont des universités, qui ont fait des hautes écoles, vont faire que des gens qui ont fait un apprentissage, par exemple.
Des propos recueillis par Mathieu Anderson. Le sondage a été réalisé entre le 16 et le 30 septembre auprès de 20 000 personnes. Les partis ont déjà déboursé près de 14 millions de francs pour leur campagne. On parle donc des votations du 24 novembre prochain. Avec un sujet très chaud sur la table, l'extension des autoroutes. Les partisans de ce projet annoncent un budget de plus de 4 millions de francs. C'est environ un tiers de plus par rapport aux opposants selon le contrôle fédéral des finances. Le bureau genevois de l'OTAN qui s'est ouvert il y a un mois ne viole pas la neutralité de la Suisse. C'est l'avis de son responsable, l'Espagnol Joachim Molina. L'OTAN s'appuie déjà sur des bureaux de liaison à New York ou à Vienne par exemple. Cette installation de l'OTAN peut rendre la Genève internationale plus complète en Corse, toujours selon le chef de ce nouveau bureau. Israël a annoncé jeudi l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord sur Gaza, un accord impliquant une libération des otages. Ça fait depuis cet été qu'il n'y avait plus eu de participation à des négociations. Betsabeh Ouroui.
Ça faisait depuis août qu'Israël n'avait pas repris place à la table des négociations. Ces nouvelles discussions interviennent après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, la semaine passée, en contexte où le gouvernement israélien est soumis à des pressions internes et international pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban. L'État hébreu a annoncé hier envoyer des représentants au Qatar. Objectif, participer aux négociations sur un potentiel cessez-le-feu à Gaza. Le responsable du renseignement extérieur israélien, David Barnea, y est. Il rencontrera dimanche le chef de la CIA et le premier ministre qatari. Il discutera des différentes options afin de reprendre les négociations sur la libération des otages. Ce n'est pas une première pour David Barnea. Il s'est déjà entretenu avec des hauts responsables égyptiens dans le cadre des discussions pour un retour des négociations et pour un cessez-le-feu. De son côté, le Hamas se dit prêt à un arrêt des hostilités, mais exige d'Israël un cessez-le-feu et un retrait de la bande de Gaza.
Une attaque de pirates informatiques paralyse la plateforme de connexion OneLog, une plateforme commune à de nombreuses maisons d'édition de notre pays. Il n'est plus possible de s'y connecter, selon Tamedia, depuis hier. Les contenus de certains titres sont temporairement en libre accès, de même que la version en ligne des journaux. Le service OneLog est utilisé par plus de 40 portails en ligne, dont Ringier et la SSR. On se rend maintenant à Fribourg, la ville du côté du canton de Fribourg. La ville de Bulle a présenté son nouveau visage. Le projet de réaménagement de son cœur historique a été dévoilé ce matin. Bulle, c'est la deuxième ville du canton avec ses presque 30 000 habitants. Elle est connue pour son dynamisme économique et démographique. De quoi donner des défis à ses responsables de l'aménagement, Muriel Balamont.
Oui, Bulle, ça n'était que 12 000 habitants. En 2002, 22 ans plus tard, la population a plus que doublé, notamment à la faveur d'une fusion. Ces autorités doivent donc faire face à un double enjeu. Moderniser son centre-ville, là où il y avait il y a seulement quelques décennies un marché aux bestiaux, tout en intégrant au mieux une population galopante. Ces 12 travaux d'Hercule passent par davantage d'espaces piétons qui changent les usages du centre-ville, davantage de zones vertes également, sans oublier une augmentation des terrasses pour les cafés et restaurants. Les travaux débuteront en 2027. Ils n'ont pour leur pas de date de fin. Bulle veut les faire avancer en fonction de ses disponibilités financières. Ils devraient coûter une dizaine de millions de francs.
Est-ce que ça veut dire que les automobilistes vont devoir changer leurs habitudes, Muriel ?
Oui, plus question de passer par la Grand Rue, la rue principale de la ville pour aller d'un bout à l'autre de Bulle. Les automobilistes devront la contourner. L'idée des autorités est de casser le trafic de transit au centre-ville. 200 places de parc vont également disparaître au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Mais selon les autorités, elles resteront suffisantes, les parkings actuels étant souvent sous-utilisés. Dans un canton d'automobilistes, la réussite du projet va en partie dépendre de la réaction des usagers de la route. Un point certainement à surveiller pour le syndic PLR de la ville de Bulle.
Muriel Balamon, merci beaucoup. Ça n'est pas vraiment une surprise, mais c'est bien Marco Odermatt qui remporte le skieur d'or pour récompenser le meilleur skieur de l'année, hommes et femmes confondus. Une distinction décernée par un jury de journalistes internationaux depuis 1963. Le Nidwaldien de 27 ans avait déjà gagné ce prix en 2022. Marco Odermatt succède à Michaela Schifrin. Il a terminé devant sa compatriote Lara Goutte Berami. Un point encore sur la météo. Le soleil sera généreux cet après-midi malgré quelques voiles nuageux en altitude. La température est automnale jusqu'à 16 degrés, 20 en Valais. Demain, le soleil sur le plateau cédera la place aux nuages avec un risque d'averse isolée, en particulier sur les crêtes montagneuses. Et dimanche, cette grisaille va persister avec juste quelques éclaircies dans les Préalpes et les Alpes.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, partageons les plus belles émotions. Pour sa 37e édition, le Jazz 11 Plus Festival Lausanne revient du 29 octobre au 3 novembre. Branford Marsalis Quartet, Christian McBride Trio, Michel Ngeocello, Roberto Fonseca Trio ou encore Vanessa Moreno et Saloma Osoares. Fidèle à sa mission, l'événement lausannois représente toute la diversité du jazz d'aujourd'hui. Plus d'informations sur jazz11plus.ch. Retrouvez le festival en direct le vendredi 1er novembre dès 19h dans Jazz sur RTS La Première.
Les références. Julian Sykes.
Bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine consacré au grand chef néerlandais Bernard Haitink. 60 ans de carrière, des orchestres somptueux qu'il aura dirigés, toujours avec cette humilité qui le caractérisait, mais aussi une bonne dose de personnalité.
Thank you.
La musique d'Elgar pour vous accueillir aujourd'hui, la cinquième des cinq marches tirées du recueil Pomp and Circumstance Military Marches, Bernard Haitink et le Philharmonia Orchestra de Londres. Diriger un orchestre, ce n'est affirmer ni son pouvoir, ni ses idées, c'est être une oreille, disait Bernard Haitink. Le chef néerlandais disait encore « Un bon chef est quelqu'un qui sait motiver un groupe, faire de son bras le prolongement naturel de sa tête. » Il avait un côté très pragmatique, Bernard Haitink. En répétition, il parlait peu, il travaillait en segments, sans doute influencé par son premier professeur de direction, Félix Hoepka, au Conservatoire d'Amsterdam. Je lui avais demandé si je devais apporter des partitions pour mon premier cours de direction, racontait Haitink dans une interview au Daily Telegraph. Hoepka m'avait dit « pas de partition. Prends ton violon avec toi. D'abord, tu dois apprendre à jouer chaque phrase musicale et ensuite tu pourras diriger. » Cet homme a eu une influence énorme sur moi. Ce n'était pas tellement une question de battue, c'était la musique. La musique avant tout, comme on peut l'entendre dans cette très belle variation Nimrod, tirée des variations Enigma d'Elgar. La musique si émouvante d'Elgar avec cette variation dite Nimrod dirigée par Bernard Haitink à la tête de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. Le musicologue et producteur radio Christian Merlin a bien résumé la manière de faire de Haitink. Sa direction n'était parasitée par aucun geste inutile, ses gestes étaient dictés par la nécessité musicale et le souci d'aider l'orchestre. Son conseil aux jeunes chefs: je leur suggère d'être moins obsédés par leur image et de faire davantage confiance en musiciens. De fait, il était d'une clarté, d'une patience telle qu'il obtenait le meilleur des orchestres sans jouer à l'autorité ou élever la voix. Fin de citation. La cantatrice anglaise Felicity Lott se souvient elle aussi que Bernard Haitink avait l'art de tempérer l'atmosphère dans les répétitions et de sécuriser les chanteurs. C'est grâce à lui et à sa présence dans la salle ce jour-là qu'elle a pu passer une audition en chantant le grand air Dan True Love dans l'opéra The Rig's Progress de Stravinsky, un opéra que Haitink a d'ailleurs dirigé en 1975 à Glyndebourne dans une production légendaire avec David Hockney pour les décors. Haitink a fait une bonne partie de sa carrière en Angleterre, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Londres au tournant des années 60 et 70. Directeur musical au Festival de Glyndebourne et puis à Covent Garden. On lui doit une intégrale des symphonies de Vaughan Williams qu'on ne va pas écouter ici. Et puis beaucoup d'enregistrements d'opéra liés aux productions qu'il donnait à Glyndebourne et à Covent Garden. Alors on va piocher un peu dans sa discographie. Tout d'abord Mozart, le magnifique trio Soave sia il vento tiré de Così fan tutte.
Thank you.
la direction souveraine de Bernard Haitink pour ce passage presque hors du temps tiré de Così fan tutte de Mozart. Les voix de Carole Vanès, Fiordi Ligi, Dolores Ziegler, Dorabella, Claudio Desteri, Don Alfonso et l'Orchestre Philharmonique de Londres. Autre moment suspendu, l'air de Pamina au deuxième acte de La Flûte Enchantée. On écoute la soprano Lucia Pop qui était connue pour avoir été une grande mozartienne dans les années 60 à 80. Toute la douleur de Pamina dans cet air tiré du deuxième acte de La Flûte Enchantée de Mozart, Lucia Pop, Bernard Haitink et l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise. À nouveau Mozart, avec cet air en forme de sérénade tiré de Don Giovanni. Alors là, le ton est plus frivole. On écoute la voix de Thomas Allen qui cherche à séduire ici en Don Giovanni la camériste d'Elvire. Il est accompagné d'une mandoline.
Deviene alla finestra, o mio tesoro, deviene a consolare il pianto mio. Se neghi a me qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia donne crudele, lasciati almen vedere
la voix suave de Thomas Allen. Il faut être suave ici, dans cet air à la mandoline tiré du deuxième acte de Don Giovanni de Mozart, avec Bernard Haitink et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Londres. Pour revenir à l'orchestre du Concertgebouw, cette formation avec laquelle Bernard Haitink a débuté comme directeur musical à l'âge de 31 ans, ça n'a pas toujours été facile dans leur relation. Il y a eu un moment de rupture lorsqu'à la fin des années 80, son contrat de directeur musical au Concertgebouw n'a pas été renouvelé. Haitink a, semble-t-il, payé de sa personne pour avoir résisté à des coupes budgétaires imposées au début des années 80. En 1983, il a carrément menacé de démissionner si le gouvernement hollandais mettait à exécution un plan d'économie. Et le plan a été retiré. Mais ça n'a pas plu à l'administration. Et en 1988, le nouvel administrateur du Concertgebouw n'a pas renouvelé son contrat. Vexé, Haitink a divorcé de l'orchestre l'année suivante et il a mis plusieurs années avant de revenir diriger son orchestre chéri. Au fond, ça n'a pas été un mal puisqu'il a pu faire carrière dans d'autres grands orchestres par la suite. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur cette air Haitink Concertgebouw avec l'un de leurs plus beaux enregistrements réalisé à la fin des années 70. L'adagio de la 7e symphonie de Bruckner est une page très intérieure, très méditative, où le chef est amené à déployer de longues phrases. C'est le genre de musique où Haitink parvenait à entrouvrir de grands espaces sonores, sans jamais rien forcer, avec grand naturel. Anton Bruckner, l'adagio de la 7e symphonie avec ses longues phrases à la fin, cette façon de laisser respirer la musique. Bernard Haitink et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, son deuxième enregistrement pour la firme Philips qui date de l'année 1978. Dans les dernières années de sa carrière, Bernard Haitink est un chef très demandé. Il collabore avec de nombreux orchestres à Boston, Chicago, Munich, Berlin, Vienne, Londres, aussi avec l'Orchestre de Chambre d'Europe. Il remet sans cesse sur le métier les mêmes partitions. Il peaufine des interprétations qui en deviennent parfois un peu lisses, mais c'est toujours d'un très haut niveau. Il y a ce geste organique d'un vieux souverain qui n'a plus à se battre pour défendre les droits de ses musiciens ou à élever la voix. Ce qu'il n'aimait pas quand une maison comme l'opéra de Covent Garden à Londres était dans le pétrin financier. Il transmet aussi son savoir dans des masterclasses de direction d'orchestre, notamment au Festival de Lucerne où on l'a vu souvent prodiguer ses conseils pleins de bienveillance. Et il revient régulièrement à Amsterdam, la ville qu'il a vue naître comme chef d'orchestre. Le 10 juin 2018, dans la célèbre salle du Concertgebouw, le chef néerlandais fait une chute lors des saluts après une 9e symphonie de Mahler. Il s'en remet lentement et il dirige son ultime concert le 6 septembre 2019 avec le Philharmonique de Vienne au Festival de Lucerne. Au programme, le 4e concerto de Beethoven en compagnie d'Emmanuel Hax et puis la 7e symphonie de Bruckner. Bernard Haitink disait « Un chef a une date de péremption ». Il ne voulait pas passer pour un grabataire de la direction d'orchestre, d'où son retrait volontaire de la scène. Il décédait 2 ans plus tard, le 21 octobre 2021 à Londres. Il avait 92 ans. On va se quitter avec une œuvre plus vive, plus joyeuse, le final de la symphonie héroïque de Beethoven. Alors une belle introduction flamboyante et ensuite une série de variations. Bernard Haitink et l'orchestre du Concertgebouw naturellement.
Thank you.
On se quitte sur ce final de la symphonie héroïque de Beethoven. Bernard Haitink et l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam. On arrive au terme de cette série d'émissions consacrées au chef néerlandais. Ce fut un plaisir de retracer cette carrière, d'écouter quelques enregistrements phares, il en existe encore évidemment beaucoup d'autres, de Haitink avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam et aussi d'autres orchestres symphoniques. Un grand merci à John Aslebacher pour la réalisation de ces émissions, émissions que vous pouvez réécouter en tout temps sur la plateforme rts.ch. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et j'espère vous retrouver tout bientôt dans cette émission Les Références. Il est 13h, tout de suite le journal.